Raconte-nous la forêt. Au-delà des arbres et des sentiers, qu'éveille la forêt en nous ? Nous allons à la rencontre de celles et ceux qui vivent avec elle, s'en inspirent, s'en imprègnent. Ils sont forestiers, marcheurs, bûcherons, chercheurs, naturalistes, citoyens, professionnels des Hautes-Alpes. Ensemble, écoutons la forêt à travers les voix humaines qui la peuplent de sens. Raconte-nous la forêt est une émission réalisée en partenariat avec Forêt Alpine. Bienvenue à toutes et à tous dans Raconte-nous la forêt. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Rosenberg, chercheur à l'INRAE. L'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Philippe travaille sur l'adaptation des forêts au changement climatique et notamment sur deux espèces, le Douglas et le Mélèze, et est à l'origine du projet de l'association Forêt Alpine avec Lucie Lombard, Forêt Alpine, je le rappelle, qui est partenaire de cette émission. Bonjour Philippe.
Bonjour Marion.
Alors Philippe, pour commencer cette émission, j'aurais une question. Si tu étais un arbre, quel serait-il ?
Alors, si j'étais un arbre, est-ce que je choisirais quel arbre je suis ? Je crois pas. Si j'étais un arbre, je serais un arbre par hasard, par le hasard de la reproduction, de la transmission depuis les générations précédentes. Donc, je ne sais pas quel arbre je serais parce que je n'aurais pas la possibilité de choisir quel arbre je serais. Donc, je serais n'importe quel arbre choisi au hasard dans n'importe quelle forêt, dans n'importe quel endroit du monde.
Très bien. Mais alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus quand même, qu'on sache un petit peu qui tu es ?
Alors, je suis effectivement chercheur à l'INRAE. Je travaille donc sur l'adaptation des forêts au changement climatique. J'ai choisi de travailler sur les forêts quand j'étais étudiant. J'ai eu à un moment le choix de travailler sur différents objets, dont les forêts. Et à ce moment-là, j'ai choisi de travailler sur les forêts pour des raisons pas du tout rationnelles, pour des raisons purement même émotionnelles. Mais ensuite, j'ai travaillé comme un chercheur, donc de façon très raisonnable, hein, en utilisant des approches scientifiques. Jusqu'à aujourd'hui, là je suis actuellement plutôt en fin de carrière, mais avec un travail qui est à la fois, qui a principalement une composante professionnelle, mais qui déborde quand même, grâce à l'association Forêt Alpine notamment, vers d'autres formes d'activités dans les forêts.
On a envie de savoir plus sur cette partie irrationnelle qui t'a amené à travailler avec la forêt. Est-ce que tu veux nous raconter cette histoire ?
Alors, je ne l'ai jamais vraiment analysé, mais disons que depuis toujours, j'ai été attiré par les milieux naturels de montagne et les forêts. Moi, je ne suis pas du tout originaire de la région, hein. Je suis né à Paris, j'ai été élevé en région parisienne, mais j'ai eu l'occasion de quitter la région parisienne à de nombreuses reprises depuis que je suis enfant, en vacances ou à d'autres occasions. Et donc, encore une fois, j'ai vite réalisé que je préférais les milieux naturels aux milieux urbains, même si je suis pas mal à l'aise en ville, mais je me sens encore plus à l'aise hors des villes que dans les villes.
Vous alliez en vacances dans la nature, à quel moment?
Oui, c'est ça. Mes parents nous emmenaient en vacances dans différentes régions de France et notamment dans des régions de montagne. Et effectivement, c'était plutôt des vacances en pleine nature, à la campagne, à la montagne, à la mer aussi de temps en temps, mais plutôt dans des milieux éloignés des zones urbaines, et ça me convenait très bien, quoi. Quand j'ai fait des études, je me suis orienté de façon à travailler sur les organismes vivants. En fait, à un moment, assez tôt, j'ai choisi de m'orienter vers des études qui allaient vers le vivant. Et donc, avec mon côté rationnel, j'ai choisi quelque chose aussi qui me paraissait utile. Donc, je me suis orienté vers agronomie. Voilà. Donc, j'ai essayé et j'ai réussi à faire suivre les études qui m'orientaient donc vers, normalement, des écoles d'agronomie. Mais au moment où je me suis présenté au concours, quand j'ai obtenu le résultat du concours, j'ai eu le choix entre des écoles strictement d'agronomie et une école forestière. qui s'appelait l'ENITEF à l'époque, l'école des ingénieurs des travaux des eaux et forêts. Et je n'avais pas réalisé que j'aurais cette possibilité. Enfin, je n'avais pas imaginé que j'aurais cette possibilité. Et quand elle s'est présentée à moi, ça m'a paru évident que c'est ça que je devais choisir et pas les écoles d'agronomie que j'envisageais avant.
Comme ça, il n'y a eu aucun préalable. Ça t'a paru évident en le voyant sur le papier.
Oui, voilà, c'est ça. Le mot forêt a fait la différence avec les autres écoles. Et je me suis dit, bah oui, c'est parfait, c'est ce que je veux faire. Je ne savais pas très bien pourquoi je voulais faire ça, mais c'était juste évident.
Mmh, d'accord. Et ensuite, tu t'es tourné vers la recherche, tu es devenu chercheur tout de suite ?
Non, pas tout de suite. En fait, quand j'ai terminé mes études de forestier, je suis d'abord parti en service national en coopération donc à l'étranger, en Amérique latine, au Costa Rica, pour nommer le pays. Et là, j'ai pris contact avec un institut de recherche dans lequel il y avait des recherches forestières. Je ne rentre pas dans le détail du pourquoi ni du comment j'en suis arrivé là, mais en tout cas, j'ai eu quelques contacts, quelques perspectives d'activités de recherche. Et puis autour de moi, j'avais aussi des amis qui ont choisi très rapidement de travailler dans la recherche. Donc, je ne connaissais pas la recherche, je n'avais pas imaginé de travailler dans ce milieu-là, mais j'ai eu un certain nombre de contacts qui m'ont donné une certaine familiarité avec cet univers. Sinon, c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans ma culture, ni dans ma culture familiale, ni amicale, d'aucune manière. Quand je suis rentré de coopération, il a fallu que je trouve du travail, et j'ai trouvé du travail dans une organisation qui s'appelle l'IDF, l'Institut pour le Développement Forestier, qui est un institut de développement pour les forêts privées. Et j'ai travaillé pour cet institut pendant 3 ans à Nancy. Alors, j'avais une partie de mon travail qui consistait plutôt à faire de la vulgarisation auprès des propriétaires forestiers et une petite partie qui consistait à participer à des projets de recherche appliqués aux forêts privées. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était cette partie-là que je préférais. Mmh. Donc, j'ai passé 3 ans dans cet institut. Et au bout de 3 ans, je me suis dit que c'était le moment de changer de travail. Et là, j'ai regardé les possibilités offertes dans le monde de la recherche, et notamment à l'INRA. À l'époque, INRA sans E à la fin. Et donc, je me suis présenté à un concours de recrutement et j'ai été recruté pour travailler à l'INRA sur des sujets qui touchaient à la recherche, mais qui n'étaient pas encore 100% de la recherche. Après, l'évolution a continué. Au sein
et t'as amené à ça, d'accord. Et donc, ça fait quelques années que tu es à l'INRAE, alors ?
Oui, je suis rentré en fin 1988 à l'INRAE.
Donc, c'est une longue histoire avec cet institut de recherche.
Voilà.
Et est-ce que tu peux rapidement nous présenter cette structure en 3 mots ?
C'est un EPST, c'est-à-dire un établissement public de recherche, un peu comme le CNRS, qui est bien plus connu. Et il y a à peu près 11 000 personnes qui travaillent à l'INRAE, donc dans des domaines liés à l'agriculture, à l'alimentation, à l'environnement au sens large. Et c'est organisé en départements. Et au sein de cet institut de recherche, il y a un département qui s'appelle ECODIV, écologie et biodiversité, dans lequel la plupart des gens travaillent sur les forêts. Pas uniquement, il y a d'autres milieux naturels, notamment des milieux d'eau douce, ou des prairies permanentes, qui sont des objets de recherche pour une petite partie des chercheurs de ce département. Mais moi, je fais partie de ceux qui travaillent sur les forêts au sein de ce département. Ensuite, les départements sont organisés en unités de recherche ou unités mixtes de recherche, selon qu'ils aient seulement l'INRAE comme tutelle ou aussi d'autres tutelles comme des universités ou d'autres instituts comme le CNRS dont je parlais tout à l'heure. Donc moi, je fais partie d'une unité qui est une UMR parce qu'on a 2 tutelles, l'INRAE et l'Office national des forêts. Et c'est une originalité d'ailleurs de notre unité de recherche, c'est la seule en France qui a cette double tutelle INRAE et Office national des forêts.
Et quelle recherche fais-tu dans cette unité alors ?
Alors voilà, donc je travaille donc sur les mécanismes d'adaptation des forêts au changement climatique en utilisant une approche qui est basée sur l'analyse des cernes accumulées dans le tronc des arbres année après année.
Donc les cernes, ce sont les cercles qu'on observe
Voilà, quand on coupe un arbre, on voit des cercles concentriques, et ces cercles concentriques, effectivement, ce sont les cernes. Et en climat tempéré, ces cernes, ils se forment un par année, quand l'arbre reprend son fonctionnement au printemps, il se remet à déposer des cellules de bois à partir d'une zone de cellules capables de se diviser qui se situe juste sous l'écorce. Donc ces cellules de bois se déposent vers l'intérieur pendant toute la saison de végétation, printemps, été, jusqu'au début de l'automne, avec des dates variables selon les milieux et selon les années. Et à la fin, on a un nouveau cerne qui s'est formé, et l'année suivante, ça recommence, et ainsi de suite, les cernes s'accumulent, un par an, pendant toute la vie de l'arbre.
Et donc toi, tu observes ça ?
Alors, on utilise ça, parce que les caractéristiques de ces cernes permettent de reconstruire l'histoire de la réponse de l'arbre aux variations de son environnement. Parce que les cellules déposées par l'arbre pour fabriquer le nouveau cerne, les caractéristiques de ces cellules dépendent de l'environnement de l'arbre et notamment des variables climatiques du moment, du climat du moment, de la température, de l'humidité atmosphérique, de la disponibilité en eau dans le sol et des interactions avec d'autres variables, d'autres composantes du milieu, y compris par exemple des composantes dites biotiques, c'est-à-dire les autres organismes vivants, les autres plantes et les animaux. On convertit ces observations en valeurs quantitatives qui traduisent, qui sont analysables avec des outils numériques, statistiques, etc., et qui nous donnent vraiment une valeur de la réponse de l'arbre à chaque instant, à chaque année, aux variations de son environnement.
Et quelle place, alors, à la forêt dans ton travail, dans ton temps de travail et dans tes moments de recherche ?
Alors moi, je ne travaille que sur la forêt, mais évidemment, ce travail, il y a des composantes donc scientifiques, techniques, pilotage de la recherche, administrative, etc., ce qui fait que je passe en réalité qu'une petite partie du temps en forêt. C'est la partie la plus agréable et la plus intéressante, mais c'est quand même qu'une petite partie du temps parce que je passe aussi beaucoup de temps au bureau à gérer tous les autres aspects des projets de recherche.
Et quand tu vas dans ces forêts, tu vas où dans ces forêts pour ces recherches ? Tu viens ici, dans le Briançonnais ?
Alors, je viens dans le Briançonnais régulièrement, notamment depuis 2007. On a développé une série de projets, principalement dans les forêts communales de Villars-Saint-Pancras, Saint-Martin-de-Querrières et puis Saint-André, pour travailler sur le mélèze, principalement, même si on a travaillé sur les autres espèces résineuses de ces forêts. Et pour utiliser ce qu'on appelle une expérimentation naturelle, qui est en fait le fait que le mélèze, il se trouve sur une gamme d'altitudes très, très variée. C'est ça qui nous a attirés dans la région.
D'accord.
C'est cette grande étendue altitudinale de la distribution du mélèze depuis les vallées, pratiquement, jusqu'au sommet.
Donc ça permet d'identifier d'autres critères d'adaptation au changement climatique ?
Oui, c'est-à-dire que... Alors, au départ, la question, c'était une question un peu fondamentale, c'était comprendre comment une espèce d'arbre comme le mélèze était capable de s'adapter à des conditions aussi contrastées que celles qui existent entre la base d'un gradient altitudinal et son sommet.
Et donc, tu viens ici pour le mélèze, on parlait du Douglas au début, en introduction de oui. Cette émission, où est-ce que tu l'observes ?
Alors, le Douglas, j'observe ailleurs en France.
Je me doute.
pas dans la région. Il n'y en a pas dans la région. Hein. Il n'a pas été introduit. Le Douglas, c'est une espèce qui est introduite depuis l'Amérique du Nord, principalement en courant 20e siècle, et qui a été introduite plutôt dans des régions de moyenne à basse altitude. Principalement, sa zone privilégiée d'introduction en France, c'est plutôt le pourtour du Massif central.
Et sans s'étaler dessus, juste le mélèze a été réintroduit dans les Hautes-Alpes ou c'est une espèce endémique ?
Alors, c'est une espèce endémique, mais dont la distribution a beaucoup varié au cours du temps, notamment en fonction des activités humaines. Ça, c'est un sujet très intéressant sur lequel il y a pas mal de gens qui travaillent. Et actuellement, sa distribution varie. Alors, sous l'effet des changements des activités humaines et sous l'effet du changement climatique également.
Alors, je reviens donc sur toi, donc ces moments-là que tu as en forêt, cette place qu'occupe la forêt dans ton travail. Qu'est-ce que tu observes quand tu vas en forêt, dans le cadre de ces recherches. On parlait des cernes. Tu coupes les arbres pour observer les cernes?
Alors, on n'a pas besoin de couper les arbres, heureusement. On prélève des petits échantillons qu'on appelle des carottes à l'aide d'une tarière, en fait. C'est des tarières spécialisées pour la récolte de ce type d'échantillons. Ça s'appelle des tarières de Pressler. Les forestiers les utilisent couramment à l'Office national des forêts, par exemple. Et on s'en sert donc pour récolter ces carottes qui sont prélevées à plus ou moins à hauteur d'homme, plus ou moins à l'horizontale. Enfin, on essaye d'être aussi horizontal que possible quand on les récolte. Et elles doivent échantillonner tous les cernes qui vont du cœur de l'arbre à l'écorce. Mmh. Elles sont radiales, voire elles peuvent être diamétrales. Dans certains cas, on peut être amené à percer le tronc de l'arbre de part en part. Mais elles sont de petit diamètre. Elles font 5 mm de diamètre. Ça veut dire que la blessure qui est faite au niveau du cambium, qui est la seule partie vivante de l'arbre à ce niveau, au niveau où on prélève l'échantillon, c'est un cercle de 5 mm de diamètre. Donc c'est quelque chose qui cicatrise très rapidement. C'est une blessure qui est considérée comme presque négligeable. Et donc c'est une récolte d'échantillons qui est considérée comme non destructive pour l'arbre.
Alors, donc ça, c'est ce que tu vas utiliser pour tes recherches. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu observes dans la forêt quand tu y vas dans le cadre de tes recherches?
Oui, en fait, on observe d'autres variables du fonctionnement des arbres. Hein. Ça, nous, on est spécialisés dans cette approche basée sur les carottes et sur l'analyse des cernes, mais on utilise des variables plus faciles à mesurer, comme la grosseur des arbres ou la hauteur des arbres, qui est déjà un peu plus compliquée à mesurer, mais quand même moins compliquée que les données issues des cernes de croissance. Et parfois aussi, on observe des données liées au fonctionnement physiologique de l'arbre. Et ça, c'est plutôt en collaboration avec d'autres scientifiques qui sont spécialisés dans ces approches-là.
D'accord. Tu disais que tu travailles aussi, enfin, tu as travaillé avec des acteurs étrangers, tu travailles peut-être encore avec des acteurs étrangers.
Oui.
Et est-ce que cette relation avec ces autres personnes, ces autres chercheurs, t'a apporté d'autres approches ou perceptions de la forêt?
Ah oui, absolument. J'ai découvert plein d'autres forêts et plein d'autres façons de les considérer. Alors, soit dans le cadre du travail, soit même en dehors du travail. Et ça, c'est quelque chose dont on pourra reparler plus tard. Mais en gros, il y a des gammes très variées de types d'attachement entre les humains et les forêts. Et dans certains pays, il y a des types d'attachement qui n'existent peut-être pas ici, j'en sais rien. Ou s'ils existent, ils ne sont pas aussi évidents que dans ces autres pays. Donc, on pourra en reparler.
Et chez les chercheurs qui sont dans ces autres forêts, il y a aussi une approche différente ou c'est plutôt une approche différente en termes personnels?
Les méthodes de recherche, maintenant, elles sont assez largement partagées partout sur Terre parce que, justement, les chercheurs communiquent beaucoup. Donc, les approches scientifiques sont à peu près les mêmes. En revanche, les liens personnels peuvent être sensiblement différents.
Ouais. Alors, on y reviendra juste après. Ouais. J'aurais une ou deux questions pour finir sur ton activité professionnelle. Tu t'intéresses aux sciences sociétés,
oui,
au pluriel,
voilà.
Et aux démarches participatives. Est-ce que tu peux nous en dire un mot?
Oui. Alors ça, c'est quelque chose de plus récent dans ma carrière. Et ça vient directement de mon travail dans le Briançonnais et dans les Alpes. C'est que quand on a imaginé le projet de recherche qu'on a souhaité développer ici, évidemment, on s'est mis en relation avec les propriétaires forestiers, qui sont, dans le cas présent, des communes, et les gestionnaires forestiers, qui sont l'Office national des forêts. Et en fait, on a travaillé ensemble. Et on a rencontré également d'autres acteurs locaux qui s'intéressaient aux forêts, par exemple par l'intermédiaire des élus communaux. Et petit à petit, on a discuté justement du fait que ces forêts, en fait, n'étaient pas que des écosystèmes, mais on utilise aujourd'hui pas mal l'expression socio-écosystème, parce que ce sont des écosystèmes dans lesquels l'homme est présent, actif. Et voilà, et que c'est juste pas possible de les considérer comme si l'homme n'était pas un des acteurs importants de ces écosystèmes. Donc, on a réalisé un certain nombre de choses et on a pris un certain nombre de décisions, c'est-à-dire de tenir compte de ces observations au maximum à l'avenir Et la première conséquence, ça a été la création justement de l'association Forêt Alpine.
Et ça, toi, ça te parle dans le cadre de ton travail?
Oui.
Cette rencontre-là?
Oui. Absolument. Ça a déclenché des nouvelles activités et des nouveaux types de projets de recherche. Alors que je désignerais plutôt comme des projets de collaboration science-société. Alors, c'est du participatif au sens large, mais dans lequel les décisions sont prises de façon collective par un groupe d'acteurs qui sont d'une part les scientifiques et d'autre part les autres catégories d'acteurs des forêts, d'usagers, d'acteurs locaux, etc.
Qu'est-ce que cela t'apporte en tant que chercheur ?
Je pense que c'est, on gagne en tant que chercheur, on gagne en efficacité. Parce que notamment, alors, on peut travailler soit sur des questions fondamentales, comprendre des mécanismes, soit sur des questions plus appliquées, en gros, participer à la production d'innovations utiles pour les milieux pour lesquels on travaille, c'est-à-dire pour ces socio-écosystèmes forestiers. Et donc, ça veut dire que ça doit être au bénéfice de tous les organismes de ces socio-écosystèmes, non humains, évidemment, mais aussi humains. Et pour ça, il est nécessaire de collaborer. On ne peut pas décider nous-mêmes, chercheurs, qu'est-ce qui est bon pour les humains qui sont les usagers des forêts. Il faut que ce soit choisi à l'occasion d'un dialogue efficace, construit, et qui tient compte aussi du fait qu'il y a des conflits d'usage entre les différentes catégories d'usagers des forêts. Donc, ça serait un peu vain de, par exemple, imaginer qu'on va proposer une innovation qui va être utile à une seule catégorie d'usagers et qui va être plus ou moins bien vue par d'autres catégories d'usagers. Donc, ça nous permet d'être plus efficace quand on travaille de façon appliquée et quand on essaye de produire des innovations.
On va faire une petite pause musicale. Est-ce qu'il y a une musique qui te vient maintenant ?
Y en a plein qui me viennent parce que j'aime beaucoup la musique en général et il y a beaucoup de musique que j'aime dans beaucoup de domaines, mais là je vais suggérer, si c'est possible, un extrait du quintet pour deux violoncelles de Schubert. Thank you.
Écoutez votre émission Raconte-nous la forêt et nous sommes aujourd'hui avec Philippe Rosenberg qui travaille sur l'adaptation des forêts au changement climatique au sein de l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Alors Philippe, nous avons parlé de ton travail déjà, de tes recherches, de ce rapport à la forêt dans le cadre de cette activité professionnelle. J'aimerais maintenant qu'on parle de ton rapport personnel à la forêt. Quel est ton plus ancien souvenir dans la forêt ?
Difficile à dire. J'ai des souvenirs très précis à partir de la fin de l'enfance, début de l'adolescence. Parce qu'à ce moment-là, mes parents habitaient à côté de la forêt de Fontainebleau, dans un petit village qui s'appelle Noisy-sur-École. Et on était à 2 minutes à pied de la limite de la forêt de Fontainebleau. Et j'allais m'y promener, soit avec d'autres, soit seul, dès que j'en avais l'occasion. Bon, en plus, c'est une forêt qui est parsemée de blocs de grès sur lesquels on fait de l'escalade, hein, qui est très, très connue des gens qui font de l'escalade. Et j'ai commencé à faire de l'escalade là-dedans, mais c'est de l'escalade en forêt. Les blocs, ils sont distribués dans la forêt. Et c'est une forêt qui est très variée selon les secteurs. On a des secteurs où les arbres sont très grands, très gros, et des secteurs, au contraire, où le sol est beaucoup plus pauvre, très sableux, et donc on a des arbres beaucoup plus petits, rabougris, et parfois assez éloignés les uns des autres, parce que le sol est tellement pauvre qu'ils ont du mal à se régénérer naturellement. Donc ça, c'est mon souvenir le plus net. En tout cas, j'y ai passé beaucoup de temps et j'aimais beaucoup y aller, quoi.
Et aujourd'hui, tu vas te balader en forêt, toujours ?
Oui.
Hors de ton travail, je veux dire.
En dehors de mon travail, oui, ça m'arrive. J'ai des arbres dans mon jardin.
Est-ce que tu habites où ?
J'habite à Orléans, donc loin d'ici, mais il y a aussi beaucoup de forêts dans cette région-là. 2 très grands massifs forestiers. On a la Sologne au sud et la forêt d'Orléans au nord. Et moi, mon jardin, il est plutôt côté Sologne. Donc, c'est une forêt plutôt pauvre, avec des arbres plutôt pas très hauts, parce que les sols sont pauvres. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir un certain nombre d'activités auprès des arbres dans mon jardin, mais aussi dans d'autres secteurs de la forêt, parce que j'ai également de la famille qui est originaire de cette région, qui a des liens avec la forêt. D'un côté, il y en a quelques-uns qui possèdent un petit peu de forêt dans laquelle ils chassent. Alors moi, je ne chasse pas, mais j'ai déjà parcouru ces forêts pour d'autres raisons que la chasse. Ça m'est arrivé d'aller couper des arbres pour récolter du bois de chauffage. Et puis, pendant les vacances, souvent, je vais faire du sport en montagne. Et là, je parcours les forêts à pied, à ski.
Plutôt en vacances, alors. Pas forcément à côté de chez toi, le week-end.
Le week-end, ça m'arrive, mais je les parcours plus en vacances, oui.
D'accord. Et qu'est-ce que tu regardes lors de ces balades ?
Je regarde un peu tout. Je regarde les paysages, je regarde les paysages forestiers et je regarde les arbres eux-mêmes. J'aime bien regarder les arbres, essayer d'identifier les espèces, essayer de voir à quoi ils ressemblent et dans quel état ils sont. Là, il y a peut-être un peu des réflexes professionnels aussi qui pointent parfois. Je me dis, tiens, là, il se passe quelque chose peut-être à cet endroit-là. J'aime bien regarder toutes les composantes du paysage. physique et végétale, et animale quand il y en a, qui sont plus rares, plus difficiles à voir. Mais l'organisation des forêts, il y a une sorte d'architecture qui crée des volumes complexes très esthétiques, je trouve, surtout en montagne, parce que grâce au relief, on a des points de vue qu'on ne peut pas avoir en plaine. En plaine, on est soit en dehors de la forêt, soit dedans. Donc, quand on est en dehors, on voit une ligne d'arbres. Quand on est dedans, on est dans la forêt, sous les arbres, on voit très bien les arbres. Mais à courte distance, dès qu'au-delà d'une certaine distance, on ne voit plus grand-chose. Mais en montagne, on a des points de vue beaucoup plus vastes, beaucoup plus étendus et qui dévoilent beaucoup plus de choses, finalement.
Et parce que tu disais, donc là, ce sont tes balades en montagne pendant les vacances, mais ensuite, à côté de chez toi, tu vas dans la forêt, tu disais, pour ramasser du bois, parfois, pour...
Oui.
Est-ce que ça t'amène un autre regard dans ces moments-là, sur la forêt ? Tu y vas avec un autre œil ?
Pas vraiment. Quelle que soit l'activité, c'est toujours le même type de milieu et les mêmes sensations.
Quelles sont-elles, ces sensations ?
Ah, il y a des sensations physiques, hein, donc les odeurs, les bruits de la forêt, il y a pas mal de bruits divers et variés. Et puis les visuels, hein, comme je disais, c'est les premières sensations. Puis éventuellement le toucher, hein, quand on peut être amené à toucher différents organismes de la forêt, des plantes, des arbres, soit parce qu'on y travaille, soit parce qu'on les touche simplement au passage. Donc, on a pas mal de sens qui sont sollicités et de façon très différente, d'ailleurs, hein, des autres milieux dans lesquels on se déplace et on est.
Et ça te procure quoi comme émotion dans la forêt, enfin, ces balades en forêt et ces sensations ?
Bah, c'est un certain plaisir, déjà, à la base, principalement. Et puis, une perception qu'on a de la forêt, c'est que c'est un milieu qui semble immuable presque à l'échelle de la vie d'un humain. C'est-à-dire qu'on peut revenir au même endroit pendant des longues périodes et observer les arbres, et en fait, les changements sont tellement graduels qu'on a du mal à les percevoir et on a l'impression qu'il n'y a pas de changement. En réalité, il y en a. Mais ça, c'est le travail du scientifique qui nous apprend qu'il y a des changements.
C'est le chercheur qui est en toi qui...
Voilà. Mais quand on se promène et qu'on ne cherche pas à analyser ce qu'on voit et qu'on revient année après année à peu près au même endroit, on a l'impression que ça ne change pas. Pour un milieu formé d'organismes vivants, c'est remarquable, quoi. C'est très particulier. C'est très contrasté par rapport aux autres milieux où tout change tout le temps beaucoup plus vite.
Et ça, c'est positif pour toi, cette immuabilité perçue ?
Oh, je dirais que c'est ni positif ni négatif, c'est différent et j'aime bien les contrastes. Donc, c'est justement, ça contraste avec d'autres milieux, notamment avec les milieux urbains, mais même avec les milieux agricoles, hein, où tout change tout le temps au fil des saisons et des années. Donc, il y a peut-être que les milieux marins où on peut retrouver le même style de sensation. Et encore, il y a des mouvements, l'effet du climat est beaucoup plus visible sur les milieux marins, parce qu'on peut passer de la mer très calme à la mer très agitée, à la tempête, etc. Donc ça fait des changements très visibles. En forêt, on n'a pas tellement l'équivalent, quoi. Qu'est-ce que ça m'apporte ? J'en sais rien. Pas grand-chose, ou beaucoup, j'en sais rien.
Et est-ce qu'il y a certains traits caractéristiques de ces forêts où tu te balades, auxquels tu es particulièrement attaché ?
Alors là, c'est très subjectif, mais il y a des forêts que je trouve plus belles que d'autres. Esthétiquement, hein, vraiment, comme des œuvres d'art, quoi. Comme des sculptures vivantes ou des tableaux vivants, des tableaux en trois dimensions, et des tableaux avec quand même un peu d'animation et un peu de son.
Et d'odeur.
Et d'odeurs, oui, j'oubliais les odeurs, effectivement.
Tu en parlais tout à l'heure.
Oui, ouais, il y a beaucoup d'odeurs.
Ce sont lesquelles qui te touchent le plus ?
Moi, c'est quand même les aspects visuels, la beauté des paysages forestiers. et encore une fois, des paysages forestiers de montagne. Je les trouve vraiment remarquables, et notamment les paysages forestiers de montagne de la région de Briançon, ils sont exceptionnels. Hein. J'ai justement quand même parcouru pas mal de forêts dans pas mal de pays du monde, pas mal de régions du monde. J'ai trouvé des équivalents dans d'autres forêts de montagne, au niveau beauté globale, comme par exemple la cordillère des Andes en Argentine, ou des forêts de montagne au Mexique aussi.
Alors plus généralement, on parlait là de donc des traits caractéristiques, des forêts qui te parlent, qui te plaisent, mais qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui par rapport à la forêt en général, pas à une forêt en particulier, et à ses usages?
Alors, ce qui me paraît important, alors là, je mélange le professionnel et le perso, mais ce qui me paraît important, c'est d'avoir en tête que les forêts, elles ont un grand nombre de fonctions différentes. Et j'utilise délibérément le mot « fonction » plutôt que le mot « service ». On peut les énumérer assez facilement. Ça va de, par exemple, de rôles très importants à grande échelle spatiale et temporelle. C'est, par exemple, la régulation des climats, la régulation du cycle de l'eau, la régulation de certains phénomènes naturels, comme des phénomènes qui sont accidentels, comme les avalanches, les chutes de blocs. Ça, c'est des rôles qui sont très importants et qui concernent le fonctionnement de régions tout entières. Et puis après, on a d'autres fonctions, comme par exemple le fait que la forêt, elle abrite une biodiversité très riche et que cette biodiversité, elle est particulière et elle n'existerait pas sous cette forme si les forêts n'existaient pas, si les forêts disparaissaient. Et puis après, on a des services qui sont liés aux activités humaines. Et ce sont également des fonctions. Donc, on a des fonctions qui correspondent à des services marchands, les usages, par exemple, le fait qu'on prélève du bois en forêt, comme un matériau utilisé par l'homme, qu'on prélève d'autres produits dans les forêts. On peut cueillir des champignons, on peut cueillir des baies sauvages. Il y a la chasse aussi, qui consiste également à... Alors, qui combine à la fois une activité de loisir et... Enfin, même il y a trois axes dans la chasse, on peut voir. Il y a l'activité, le loisir. Il y a le fait qu'on prélève de la viande qui est consommée par les hommes. Et puis, il y a le fait aussi que, étant donné que les interventions humaines ont quand même changé le fonctionnement des écosystèmes forestiers, on tente de réguler à nouveau le fonctionnement de la biodiversité de l'écosystème forestier en prélevant de façon raisonnée certains animaux plutôt que d'autres, etc. Puisque, enfin, là, je fais référence au fait que les principaux prédateurs de toutes sortes de catégories d'animaux ont soit disparu, soit sont à peine en cours de réintroduction. On pense au loup, évidemment.
Oui. Et donc, pour toi, là, ce qui est important dans cette forêt, c'est de voir l'ensemble de ses fonctions, ou voilà. Ce sont chacune de ses fonctions particulières.
C'est de les considérer toutes simultanément. Et donc, on a deux grandes catégories de bénéficiaires, les humains et les non-humains, pour simplifier. Et donc, il faut considérer toutes ces fonctions du point de vue de toutes ces catégories, ces grandes catégories de bénéficiaires. Et là, on peut raisonner et on peut se dire que notre objectif global, c'est de maintenir ces fonctions. La plupart d'entre elles, on peut être amené à en reconsidérer certaines quand elles ne sont pas au bénéfice de vraiment tous. Mais a priori, le point de départ, c'est qu'on considère toutes ces forêts et l'objectif global, ça doit être de maintenir toutes ces fonctions.
Bon, on va essayer d'en parler de toutes ces fonctions juste après une autre pause musicale. Est-ce qu'il y a une autre musique que tu aimerais écouter?
Alors là, je pense à un disque récent d'un groupe qui s'appelle Lagon Noir, et Noir, N-W-A-R, hein, pas N-O-I-R.
Eh bien, on écoute ça tout de suite. Thank you.
yaron ale aviri aduni wa ya wodo yesigiri santa ya ayati le tisara kie
kode ma buja sa komo sa leve lo son la poupe au la foot fe la roue me
Dans votre émission Raconte-nous la forêt, aujourd'hui, nous accueillons Philippe Rosenberg, qui est chercheur à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, évidemment, qui travaille sur les forêts et notamment l'adaptation des forêts au changement climatique. Philippe, on finissait juste avant cette pause musicale sur l'importance pour toi de prendre en compte l'ensemble des fonctions, comme tu disais, dans la forêt, de la forêt. Tu es en relation par ton travail avec d'autres acteurs et usagers de la forêt. On en a déjà parlé, mais est-ce que tu es aussi en contact avec d'autres acteurs de la forêt, personnellement, enfin dans ton rapport personnel à la forêt ?
Oui, bah, j'ai évoqué le fait, par exemple, que dans ma famille, il y avait des gens qui étaient chasseurs et qui...
C'est vrai.
Et dans nos régions, la chasse, elle se déroule... Enfin, non... C'est pas vrai. Elle se déroule pas principalement en forêt. Elle se déroule aussi bien en terre agricole qu'en forêt. Mais enfin, elle se déroule quand même beaucoup en forêt dans la région Centre-Val de Loire. Et il y a ça. Et après, d'autres acteurs des forêts. Les autres, c'est plutôt à cheval sur le perso et sur le professionnel. J'en connais de plus en plus avec notre orientation vers la. Les collaborations sciences-société.
Et donc, de cette rencontre avec ces autres usagers de la forêt, tu en as certains peut-être qui te parlent plus que d'autres ?
Bon, si je devais m'impliquer à titre personnel dans une des catégories d'acteurs des forêts, je m'orienterais peut-être plus vers ceux qui sont intéressés par la biodiversité. Mais ça, c'est un peu lié au côté scientifique, parce que... après, il y a tous les autres, parce qu'on travaille, par exemple, avec les propriétaires forestiers, qui, autant publics que privés, les gestionnaires forestiers, et puis après, toutes les autres catégories d'usagers, ceux qui interviennent en forêt pour d'autres raisons, pour des raisons économiques, hein, beaucoup, parce que leur activité professionnelle se déroule ou est lié aux forêts. Je pense à les exploitants forestiers, les utilisateurs de bois, les scieurs, les constructeurs ou les fabricants de produits en bois, d'objets en bois, de maisons, etc. Les acteurs du tourisme, et puis d'autres catégories d'acteurs qui s'intéressent aux forêts pour d'autres raisons. Donc j'ai évoqué la biodiversité, mais aussi, alors ça va jusqu'à des catégories d'acteurs qui sont attachés aux forêts pour des raisons spirituelles. Mmh. Et là, c'est quelque chose qui existe dans nos régions, mais qui n'est pas aussi explicite que dans d'autres régions du monde, notamment en Amérique latine.
Oui. Je profite de cette perche tendue. On n'est pas revenu dessus, mais j'avais très envie de parler de ce rapport personnel, du coup, à la forêt que tu as découvert dans d'autres pays, que d'autres acteurs de forêt peuvent avoir dans d'autres pays. Est-ce que tu peux nous parler de ces autres rapports, peut-être, qui t'ont intéressé ?
Oui, oui, bien sûr. Donc, ce que j'ai réalisé, alors, je le savais, évidemment, mais je l'ai réalisé un peu plus concrètement récemment, c'est que parmi les catégories d'usagers des forêts, notamment en Amérique latine, précisément dans les forêts de la cordillère des Andes, on a les mêmes catégories d'usagers qu'ici, hein, ceux que j'ai cités jusqu'à présent, et puis on en a d'autres qui ressemblent aussi à certaines catégories, mais qui ne sont pas aussi faciles à identifier chez nous, c'est les communautés locales qui ont des rapports spirituels avec les forêts. Et spirituels au sens large, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à des liens religieux, mais ou dans certains cas, c'est spirituel sans être particulièrement religieux. Mais ça, c'était un petit peu... Alors, je sais depuis longtemps que ça existe, mais je l'ai rencontré personnellement, concrètement, récemment, quoi, en rencontrant certains de ces acteurs-là et en échangeant un petit peu avec eux et en essayant de les inclure dans notre panoplie, dans notre de catégorie d'usagers.
Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Je trouve que c'est une formulation plus explicite de choses qui sont plus implicites chez nous. Parce que quand on interroge pas mal de gens sur justement l'attachement à la forêt, donc il y a toutes les formes d'attachement qu'on connaît, qui sont faciles à décrire, qui sont matérielles peut-être. Et puis il y a d'autres formes d'attachement qu'on perçoit au travers des réponses des gens qu'on interroge, et qui sont qui sont pas aussi explicitement spirituels, mais qui pourraient l'être aussi. Et donc là-bas, ça fait très très longtemps qu'ils ont formulé ça. Ils ont un vocabulaire, un regard, des pratiques, des rituels, des choses comme ça, qui sont une sorte de traduction concrète de ces formes d'attachement. Toutes les formes d'attachement ont de la valeur. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte de ces formes d'attachement comme on tient compte des autres qui sont, par exemple, liées au fait que les revenus de quelqu'un vont dépendre de ses activités en forêt. C'est important, on en tient compte. Et puis, il y a d'autres formes d'attachement qui ne sont pas liées au fait qu'on puisse tirer des revenus de la forêt, même si ça existe aussi dans ces cas-là, des revenus ou des ressources, hein. Ce n'est pas forcément sous forme d'argent. Mais ça existe aussi et il n'y a pas de raison de ne pas en tenir compte quand on fait dialoguer toutes les catégories d'usagers et quand on fait intervenir, collaborer scientifique avec toutes ces catégories d'usagers.
Et est-ce que dans ce rapport spirituel dont tu as pu parler avec ces communautés, il y en a certains qui t'ont parlé, toi, dans ton rapport à la forêt ? Parce que tu disais que ça pouvait aussi expliciter des choses qui étaient implicites. Est-ce que ça a permis de peut-être mettre des mots sur toi, ton rapport ?
Oui, ça peut expliquer ce qui est, chez nous, non rationnel dans nos formes d'attachement à la forêt. Quand j'ai dit qu'un jour, j'ai réalisé que la forêt, c'était le milieu qui me plaisait le plus, dans lequel j'avais plus envie de travailler que d'autres milieux, je ne savais pas pourquoi. Donc, on peut faire un parallèle entre cette réaction un peu émotionnelle et ce que formulent donc des communautés autochtones de la Patagonie argentine et chilienne, Mapuche, Pehuenche et compagnie, pour citer qu'eux. Mais on a la même chose dans beaucoup de régions du monde. Et je pense que sous une certaine forme, on a quelque chose de semblable dans nos régions. Il n'y a pas de raison. On est tous des humains.
Donc, je reviens sur notre question, sur les relations avec les autres acteurs. Enfin, on reste dans le sujet, hein, du coup. Tu disais qu'il n'y en avait pas forcément certains qui te parlent plus que d'autres. Est-ce qu'à l'inverse, je le prends à l'inverse, est-ce qu'il y en a certains qui te parlent moins que d'autres ?
Après, il y a des activités en forêt qui ne m'intéressent pas spécialement, que je ne pratique pas, mais si je ne les pratique pas, j'y consacre peu de temps. Mais côté professionnel... je les considère à égalité avec les autres, quoi.
Est-ce qu'il y en a éventuellement qui te grattent, comme on pourrait dire ?
Je disais tout à l'heure que personnellement, je ne suis pas chasseur et je sais pourquoi je ne suis pas chasseur. Maintenant, je sais très bien que dans nos écosystèmes forestiers, il est nécessaire d'intervenir pour réguler l'équilibre faunistique, pour le rétablir. Après, que moi, j'ai envie ou j'ai pas envie de participer à ces activités de régulation, c'est personnel. Mm. Et ça regarde que moi, quoi. Moi, mieux, je peux en parler.
Très bien, la réponse est claire. J'aimerais parler maintenant de l'avenir des forêts. Donc, je reste sur les pratiques, puisqu'on est dans cette thématique-là. Est-ce qu'il y a des pratiques que tu aimerais et que tu penserais nécessaires ou intéressantes de voir évoluer, changer, et dans quel sens ?
Les pratiques, elles sont extrêmement variables selon les types de forêts, quoi. On a vraiment des forêts qui sont pratiquement sauvages. Ça, c'est un point qui est remarquable dans ce type de milieu naturel. C'est que c'est quand même, dans beaucoup de régions du monde, encore des milieux principalement sauvages. Même si l'homme les parcourt, y intervient et les modifie, elles sont quand même modifiées relativement à la marge et elles sont considérées globalement comme encore assez sauvages et puis voire complètement sauvages quand on va dans certaines régions, à nouveau comme la Patagonie argentine et chilienne, où là, dans les Andes, on a des forêts qui sont très peu parcourues et dans lesquelles l'humain n'intervient pas du tout et qui sont encore aujourd'hui complètement sauvages. Et heureusement encore dans d'autres régions du monde, malheureusement de moins en moins aussi, on peut le regretter. Et puis à côté de ça, on a toute une gamme de niveaux d'intervention humaine jusqu'aux forêts totalement industrielles ou agricoles, on va dire. Une forêt qui a un caractère industriel en France, c'est les forêts de pins maritimes dans les Landes. Mmh. Et une autre forêt qui a un caractère, alors des fois on n'utilise pas le mot forêt pour la désigner, mais c'est les peupliers, les plantations de peupliers. Ça se rapproche d'une culture agricole, parce que c'est souvent en plus géré par des agriculteurs, hein, comme une production supplémentaire. Et puis dans d'autres régions du monde, c'est encore plus industrialisé. On peut penser à l'eucalyptus au Brésil, où on a les équivalents en Amérique du Nord, aux États-Unis, avec justement le Douglas, qui est une espèce autochtone, mais qui est aussi une espèce plantée. Et tout ça pour la production de bois, au bénéfice de certaines industries, papetières ou utilisant du bois d'œuvre, notamment. Donc, on a vraiment un écart gigantesque entre une forêt sauvage et une forêt industrielle, mais on appelle toujours ça de la forêt. Et on a sûrement encore beaucoup à apprendre sur la façon de gérer les forêts les plus industrielles pour les rendre plus robustes, moins fragiles et moins sensibles aux dangers qui accompagnent notamment le changement climatique.
Donc ce serait ça pour toi, l'évolution possible en tout cas.
Ouais, et puis également pour faire en sorte peut-être qu'elles couvrent plus de fonctions que simplement la production de bois. Bon, ça c'est un choix stratégique de la part des gens qui décident comment et pourquoi on doit créer et gérer ces forêts-là. Il est possible que dans le contexte actuel, ce soit des forêts quand même qui soient de plus en plus fragiles.
Est-ce que l'avenir de la forêt, face notamment au changement climatique, mais pas que, t'inquiète alors ?
Alors, surtout face au changement climatique actuellement. Hein. Pour les autres raisons, ça dépend des régions du monde. Il y a des régions du monde où effectivement on continue de déboiser trop. Et donc, en réduisant la surface des forêts, ben on supprime un certain nombre de fonctions et qui sont très importantes pour tous. Donc, et à la base, encore une fois, régulation des climats, régulation du cycle de l'eau, conservation de la biodiversité, hein, avant même les fonctions qui concernent plus directement les humains. Mais y a ça. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Hein. La forêt, notamment en France, elle est toujours en expansion, lente maintenant. Elle a été en expansion très rapide à partir du début du 19e siècle. La surface de la forêt française avait énormément baissé jusqu'au début du 19e siècle. Et ensuite, il y a eu une prise de conscience qui fait qu'elle a beaucoup augmenté et qu'elle continue d'augmenter un petit peu aujourd'hui. Donc la forêt française n'est pas du tout en danger, comme d'autres forêts d'autres régions du monde, du point de vue du déboisement. Mais elle est, comme toutes les autres forêts, en danger du point de vue du changement climatique. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience.
Et quels seraient les besoins ou les éventuellement solutions pour toi pour faire face à ce danger ?
On n'a pas beaucoup de recul sur les solutions. On en imagine beaucoup, on en teste quelques-unes. À la base, l'urgence, ça serait d'intervenir pour limiter l'émission des gaz à effet de serre et infléchir la tendance générale au réchauffement global. Ça, ça serait la véritable urgence, mais ça, il y a peu de gens qui ont beaucoup de pouvoir dans ce domaine. Le petit nombre de personnes qui a beaucoup de pouvoir dans ce domaine, ce sont les dirigeants de certains pays très émetteurs de gaz à effet de serre et les dirigeants de très grandes entreprises qui jouent un rôle également très important dans l'émission des gaz à effet de serre. Ça ne représente pas énormément de monde à l'échelle de la planète, mais c'est des gens qui pourraient réellement jouer un rôle beaucoup plus important que tous les autres. Mais malheureusement, les tendances, les idées et les stratégies défendues par beaucoup de ces gens-là ne vont pas dans le sens d'une atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc on se sent un peu impuissant de ce point de vue-là, en tant que citoyen de base, y compris en tant que scientifique, parce qu'on a beau avertir, mais on a l'impression de prêcher dans le désert. Et donc du coup, les possibilités, à mon avis, c'est que les solutions, elles seront pas globales, mais locales. Les alternatives à l'atténuation de l'émission des gaz à effet de serre, elles seront locales. Et donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, une grande partie des solutions, elles seront issues de collaborations entre sciences et sociétés relativement localement. Parce qu'il va falloir adapter les solutions, et ça, ça doit se faire de façon collaborative, justement, pour, en faisant ça, considérer toutes les fonctions que j'évoquais tout à l'heure et toutes les catégories d'usagers. Et bien veiller à ce qu'aucune catégorie d'usagers ne soit laissée de côté, parce que sinon, on va se retrouver avec des conflits d'usage, enfin des conflits d'intérêts, et les solutions ne seront pas mises en œuvre, ou seront mal mises en œuvre, ou ne seront pas efficaces.
J'allais te demander, toi, est-ce que tu penses pouvoir agir ?
Ah oui. Alors, en tant que scientifique, en portant un discours de scientifique, évidemment, mais on voit bien aujourd'hui les limites des discours des scientifiques qui sont de moins en moins entendus, malheureusement. On ne va pas se lancer dans la discussion sur ce sujet, mais tout le monde voit bien à quoi je fais allusion. Et puis, l'autre partie, c'est justement en portant avec d'autres des projets de collaboration science-société dans les territoires, comme celui qui est porté par l'association Forêt Alpine et par une entité qu'on est en train d'essayer de créer actuellement, qui s'appelle un laboratoire vivant, mais on utilise l'acronyme anglais, un Living Lab, qui est une organisation pérenne qui a pour objectif justement de développer de façon collaborative science-société les innovations qui vont être à la base des futures solutions d'adaptation des forêts de montagne au changement climatique.
Tu es en plein dedans, alors.
Voilà.
Pour rester dans le futur, est-ce qu'il y a un idéal de la forêt qui t'inspire ?
Difficile à dire. Je pense que l'idéal de la forêt, c'est la diversité des forêts. Mon idéal, ça serait de les conserver tous. Fonctionnel.
Alors, pour clore cette émission, deux phrases à finir. J'ai un secret avec la forêt qui est...
Ah, je me verrais bien dispersé sous forme de cendres dans une forêt après ma mort. Pourquoi pas ?
Et le message que j'aimerais transmettre est...
Le message, c'est un petit peu le résumé de ce que j'ai dit un petit peu avant. C'est l'urgence du développement de collaborations efficaces et à long terme, surtout j'insiste sur le long terme, entre sciences et sociétés, à tous les niveaux, mais y compris peut-être en priorité au niveau local, pour faire face aux nouveaux défis. Hein. Et j'insiste sur le long terme aussi, parce que tous les modes de fonctionnement actuels qu'on nous propose, ils sont à relativement court terme. Et là, il faut vraiment dépasser ces échelles de temps trop courtes pour travailler en forêt, parce que les forêts, elles sont définies par les arbres, qui sont des organismes qui ont des durées de vie de, en général, plusieurs centaines d'années, voire bien au-delà pour certains.
Merci Philippe. On se retrouve dans le prochain épisode de Raconte-nous la forêt dans 2 mois, avec un profil tout à fait différent. Nous allons accueillir une conteuse. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve le premier samedi du mois de février. Votre émission Raconte-nous la forêt est à retrouver tous les premiers samedis de chaque mois à 9h et en rediffusion les dimanches à 19h. Elle est également disponible en ligne sur le site de Fréquence Mistral, Briançon.